Ils tiennent tous les deux un grand meeting de campagne cet après-midi, à Marseille pour l'un, à Paris pour l'autre. Ils sont tous les deux crédités de 19% des suffrages, si l'on en croit en tout cas les sondages. Et ils aspirent tous deux à doubler Emmanuel Macron. À 2 semaines du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon se font face aujourd'hui à 700 km de distance. Alors l'effet miroir s'arrête là, les programmes sont totalement différents, mais les deux hommes sont désormais sur la même ligne de départ. Bonjour Olivier Roucan.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques. Alors, il reste 2 semaines de campagne, hein. 2 semaines pour convaincre les indécis qui seraient près de 35%. Est-ce que l'un et l'autre peuvent aller plus loin ou est-ce qu'ils ont atteint ce qu'on pourrait appeler un plafond de verre ?
Oh non, on ne peut pas préjuger des variations constantes de l'électorat, dans tous les cas dans les intentions de vote, qui sont mesurées par les sondeurs. On voit bien que depuis le début, il y a des changeurs assez nombreux, et puis il y a cette indécision dont vous parlez, donc les 35 qui n'ont pas encore véritablement d'idées précises. Donc les deux hommes sont au coude à coude dans les intentions de vote désormais pour cette place du troisième homme, et tout va dépendre à la fois de l'image de chacun, et puis des événements de campagne, et on voit qu'il y a des évolutions, notamment sur, j'allais dire, la présidentialité de Jean-Luc Mélenchon.
Est-ce qu'ils chassent sur les mêmes terres ? Parce qu'on peut se poser quand même la question, quand on entend Jean-Luc Mélenchon, justement, se réclamer du général de Gaulle pour sa position vis-à-vis de l'OTAN, par exemple.
Oui, alors ça, c'est l'image qui où on voit très bien que Jean-Luc Mélenchon, ces derniers jours, gagne en présidentialité, même s'il est plus faible que les autres sur la stature. Mais enfin, quand même, il gagne sur certains points. Il a très bien noté sur l'honnêteté, la probité. On sait que ça compte cette fois-ci, comme la fois précédente, pour l'accès, pour cette fameuse présidentialité. Et puis, il est fort également sur le point de la proximité et la capacité d'écoute. Il se rapproche quand même des attendus. Quant à François Fillon, lui, ses éléments de force sont sa détermination. Donc, il est fort sur des qualités qui comptent pour l'électorat de droite, même si il a évidemment perdu sur un point qui est important également pour l'électorat de droite, qui est l'honnêteté.
Oui, François Fillon qui tente de remonter la pente, hein, et de gommer les zones d'ombre dans cette image de père la vertu, si on peut dire, qui s'était façonné au départ.
Oui, et du reste, on voit sur les derniers jours quelques mouvements qui sont relativement encourageants pour lui, notamment auprès des retraités, auprès également des cadres. On voit qu'il regagne un peu de terrain, mais évidemment, il reste quand même à 19%, 18,5%, ce qui, pour un candidat de droite à quelques semaines du premier tour, est plus faible que d'habitude.
Alors, les derniers sondages prédisent à l'un comme à l'autre, effectivement, un score d'environ 19% des voix, ce qui fait de le troisième homme de cette présidentielle. C'est un statut parfois mis en avant, hein, par les médias, mais franchement, être le troisième homme, Olivier Roucan, est-ce que c'est vraiment un tremplin politique ? Est-ce que ça a vraiment un sens ? On pense par exemple à François Bayrou en 2007.
Alors, pour François Fillon, ce serait tout sauf un tremplin politique, parce que les Républicains, c'est un parti de gouvernement identifié, un des principaux partis. Donc là, ce serait un échec majeur. Par contre, pour une figure telle que Jean-Luc Mélenchon, ce serait plutôt un succès inattendu. Donc tout dépend de la position de départ.
La suite, c'est quoi pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple ?
La suite logique, s'il parvient à cette place, ce serait évidemment de restructurer les forces partisanes sur la gauche du Parti Socialiste. Et un succès pour lui, ce serait évidemment de parvenir à structurer une nouvelle force politique qui absorberait l'extrême-gauche, front-gauche et puis l'aile-gauche du Parti Socialiste. Mais là, on ne peut pas préjuger de l'avenir.
Avec en ligne de mire les législatives, c'est important
bien sûr.
Place de troisième homme pour les législatives ?
Dans son cas, oui, ce serait important parce que cela correspondrait évidemment à l'effondrement de Benoît Hamon et à sa perte de crédibilité également au sein du Parti Socialiste qui serait alors dans un état sans doute pour une partie proche de la scission, encore une fois, de sa partie la plus à gauche, qui serait sans doute aspirée par le charisme de Jean-Luc Mélenchon à la réserve près quand même du comportement qu'aurait alors le Parti communiste.
Est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron est un candidat sans parti, je dirais au sens traditionnel du terme, fait que tout est ouvert aussi ?
Oui, alors en effet, même s'il faut remarquer qu'En Marche cesse de se structurer, de mieux s'organiser, et qu'il finira par approcher les critères qui permettent de définir ce qu'est un parti politique, notamment s'il parvient à présenter des candidats à la députation dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire et obtenir un score intéressant pour Emmanuel Macron lors des législatives. Donc ce sera le moment charnière de la transformation d'En Marche, qui est pour l'instant un mouvement, en parti politique et qui crédibilisera dans la durée la démarche de cette personnalité.
Merci Olivier Roucan, enseignant-chercheur en sciences politiques au Centre d'études et de recherche en sciences administratives, auteur du livre « En finir avec le président » paru aux éditions François Bourin.